Focus. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour Jean Ménard.
Bonjour.
Bienvenue dans le deuxième volet de Focus qui vous est entièrement consacré cette semaine. Donnons quelques clés à nos auditeurs avant de commencer, si vous le voulez bien, afin de mieux vous connaître. Grand professeur de lettres, vous commencez votre carrière en lycée avant de vous tourner vers la faculté. Vous voyagez partout dans le monde, c'est-à-dire l'Afrique, les États-Unis ou encore le Japon, pour y faire des conférences. Et puis en 1990, vous devenez professeur émérite à la Sorbonne, à Paris. Et dans vos études, vous avez croisé le chemin du philosophe Louis Lavelle, nous l'avons évoqué hier, il incarnait l'existentialisme. Et aujourd'hui, nous restons dans le domaine de la philosophie, mais cette fois pour parler de vos très nombreux travaux sur Pascal, Jean Ménard. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Pascal ?
Bien, ce n'est pas la première fois que je réponds à cette question. J'ai deux réponses, c'est qu'il y a des raisons qui tiennent et qui sont profondes et des raisons qui sont accidentelles. Alors les raisons profondes, c'est que c'est un écrivain qui correspond à mes goûts, dans lequel je retrouve beaucoup de choses auxquelles je tiens et qui m'intéressent et que j'admire beaucoup. Et les raisons accidentelles, c'est que quand même pour décider de faire des travaux sur un auteur, il faut se trouver dans des circonstances favorables. Il faut avoir un patron qui accepte de s'en occuper. Il faut s'intéresser au travail que l'on fait. Il faut, d'une façon encore plus terre à terre, il faut que le premier travail réussisse et que l'on ait envie de continuer. Or, c'est ce qui m'est arrivé, puisque j'ai commencé à travailler sur Pascal. J'ai fait d'abord un mémoire de ce qu'on appelait alors diplôme d'études supérieures, et qui est devenu la maîtrise depuis. Et ça se passait en 42-43. Parce que je ne suis pas né d'hier. Et alors,
vous aviez 21 ans?
Ce diplôme, ce qui était sur un sujet très technique, mais passionnant, enfin, sur l'interprétation de la Bible chez Pascal, ce sujet, a donné le professeur qui me dirigeait m'a demandé d'en tirer un article qui a été publié aussitôt. C'est-à-dire le premier article que j'ai publié, je l'ai publié à 22 ans. Et cet article, je l'ai trouvé encore cité hier dans une étude récente. On en est resté là. On n'a pas avancé depuis.
C'est pas pour ça, moi, ça doit faire plaisir de voir qu'on est encore cité.
Ça fait plaisir. Oui. Mais j'ai fait beaucoup d'autres travaux puisque je pense que mes publications, ça doit être à peu près plus près de 400 que de 300 en ce moment.
Et qu'est-ce qui vous a séduit chez Pascal? C'est plutôt la pensée ou c'est l'homme? Parce que c'est quand même un personnage bien particulier.
Voilà, c'est-à-dire, si vous voulez, quand je me suis dit que ça allait être mon sujet d'étude, j'ai pas voulu faire de compartiment. J'ai pas voulu faire de division, de subdivision à l'intérieur. Je me suis dit, je vais tout étudier. Il y a par exemple des domaines auxquels je ne connaissais rien et où maintenant je suis très compétent. Par exemple, l'histoire des sciences.
Oui.
Et je travaille avec des historiens des sciences qui m'invitent dans leur réunion. Simplement parce que il fallait le faire pour Pascal.
Oui.
De même, il y avait quelque chose qui m'était totalement étranger, c'était l'étude des manuscrits, l'érudition, si vous voulez, des recherches du genre de celles qui se font à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et ces recherches-là ne m'étaient pas familières du tout, elles me sont devenues très familières, parce que j'en avais besoin. Du moment qu'elles m'étaient familières, je suis devenu un peu le spécialiste de ces choses-là. Donc, refus de la spécialisation. Et ça, c'est un trait très important pour moi, une recherche. Et donc, cette deuxième partie de mon interrogatoire, je considère que...
Un interrogatoire, non, quand même pas.
Mais un interrogatoire tout à fait bienveillant. Cet interrogatoire, je l'intitule « Les découvertes », si vous voulez, les découvertes. Oui. Et comment est-ce qu'on peut faire des découvertes? J'aurais jamais soupçonné, quand je commençais à travailler sur Pascal, que je pourrais faire autre chose que de répéter ce que les autres avaient dit, en y introduisant quelques grains de sel supplémentaires. Et je me suis aperçu qu'on pouvait recommencer tout à zéro.
Ce personnage à double facette, vous évitez de vous spécialiser dans un domaine. Puisque c'est un Pascal est un scientifique, c'est un philosophe.
Même comme écrivain, il n'a pas été épuisé. Enfin, on n'a pas tout compris de sa manière d'écrire. Comme penseur religieux, tout cela pose des problèmes différents. Et alors, à la base de tout cela, et c'est là-dessus que j'avais l'intention d'insister surtout, il y a ce que j'appelle les découvertes. C'est-à-dire qu'il faut considérer, il y a deux éléments dans une recherche de ce type-là. Que ce soit d'ailleurs littéraire, philosophique, historique, il y a la documentation, c'est-à-dire savoir à partir de quoi on parle, et les textes par exemple, les documents, et puis il y a l'interprétation. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces textes? Qu'est-ce qu'on va en dire? Ces deux choses-là sont aussi importantes l'une que l'autre. Et quelquefois elles sont inséparables l'une de l'autre. C'est en cherchant une interprétation que l'on arrive à s'apercevoir qu'il faut compléter la documentation. Et inversement, quand on a la documentation, on s'aperçoit qu'il faut l'interpréter.
L'interprétation des textes, par exemple, c'est quoi?
L'interprétation, ça veut dire quels sont leurs tenants et aboutissants, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est purement et simplement la paraphrase, si vous voulez. On a très souvent accusé la critique littéraire d'être une simple paraphrase. Mais je dirais que la paraphrase, c'est déjà utile. Parce que quand on répète la même chose que ce qu'un texte dit, ça prouve déjà qu'on l'a compris. Et ce n'est pas évident d'arriver à formuler autrement ce qui a déjà été dit une fois. Mais surtout, c'est que il faut différencier la partie et le tout. Et l'interprétation concerne le tout. Et la documentation concerne les parties. C'est-à-dire qu'il faut assembler les parties, savoir comment elles vont ensemble et comment elles s'organisent.
Alors, c'est ce que vous avez fait donc pendant quand même pas mal d'années.
Ce que je retiens surtout de cette période de recherche et de découverte, c'est justement la découverte. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à trouver. Comment est-ce que j'ai fait pour découvrir, par exemple, j'ai découvert des pensées inédites.
Voilà. Alors, quels ont été vos grains de sel concernant Pascal?
Qu'est-ce qui m'est arrivé? D'abord, j'ai pour faire un petit excursus biographique. J'ai d'abord publié un livre en 1951.
Pascal, l'homme et l'œuvre.
Quand j'avais 30 ans, oui. Ce livre a eu un grand succès. Et aussitôt, la même année, l'année même où je l'ai publié, quelques mois après sa publication, un directeur littéraire d'une grande maison d'édition, Desclée de Brouwer, m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire.
Ah oui,
alors
après,
je lui ai dit, mon idéal, ce serait de faire une édition des œuvres complètes de Pascal. Mais une édition qui soit une somme sur Pascal, c'est-à-dire une totalité, une sorte d'encyclopédie sur Pascal. C'est-à-dire non seulement il y aurait les œuvres, mais tout ce qui concerne Pascal, tout ce qui permet de... tout ce qui est document sur lui, et en chassant tout ce qui est secondaire, et tout ce qui est répétition de ce qu'ont dit les autres. Alors, le projet a été immédiatement appliqué. J'ai eu une chance qui est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais corrigé une virgule dans les textes, dans les manuscrits que j'ai rendus. Il y a 4 volumes de sortie, mais cela se passait en 1951. Et depuis, sommes en 2005, et je n'ai pas encore fini. Il y a 4 volumes de sortie, mais il en reste 3.
Et donc, vous avez découvert des pensées, vous disiez.
Alors ça, c'est dès le début. Parce que mon premier travail, je me suis dit, il faut que j'ai sous les yeux et que je consulte moi-même, que j'examine et que je critique tous les documents qui sont repérés sur Pascal, ou repérables. Et donc, j'ai pris tout simplement les catalogues des bibliothèques, des grandes bibliothèques, et je suis allé voir tous les documents concernant Pascal et tous les écrits de Pascal, même lorsqu'ils paraissaient déjà connus. Et je me dis, il faut tout vérifier. Mais c'est un de mes adages, il faut tout vérifier.
Et vous avez eu raison.
Et j'ai bien eu raison. Alors, j'ai découvert dans plusieurs endroits, et notamment la Mazarine. Nous sommes ici tout près de la Mazarine, par conséquent. On peut le dire qu'il y avait des écrits inédits de Pascal. Tout simplement parce qu'on n'avait pas fait attention, ou bien que c'était de Pascal, ou bien que ce n'était pas déjà publié. La série la plus importante de pensées inédites se trouvait à la Bibliothèque nationale. Ce n'était pas des textes autographes, ceux-là. C'était des copies. Mais il se trouve que par la variété des documents que j'avais...
À la BNF, les documents qui sont recensés, pour le coup, ils n'avaient pas été édités.
Ils étaient recensés, mais dans une collection qui n'a pas de table. Et ça suffit déjà pour que ce soit plus difficile. Et alors j'ai collationné ce manuscrit, et c'est au bout de plusieurs fois qu'on s'aperçoit de l'intérêt. Et j'ai remarqué qu'il y avait donc une série de pensées, une dizaine de pages peut-être, avec des copies des pensées. La plupart des pensées étaient bien connues, étaient déjà connues. Mais je me disais, il y a quand même là des pensées que, lorsque cette copie a été faite, parce que je reconnaissais l'écriture que j'avais trouvée ailleurs, lorsque cette copie a été faite, on ne la connaissait pas, cette pensée. Elle n'était pas publiée. Donc, c'est quelqu'un qui était très bien placé pour l'information. Et je me suis dit, alors, maintenant, il faut aller voir s'il n'y a pas, dans cet ensemble de pensées, s'il n'y en a pas qui ne sont inconnues. Oh, il y en avait une douzaine d'inconnues. Je peux en citer quelques-unes.
Ah oui, si vous avez les pensées que vous avez découvertes.
Oui, maintenant elles ont été publiées. Moi, je les ai publiées moi-même d'ailleurs.
Mais c'est vous qui les avez retrouvées.
Par exemple, le sommeil est l'image de la mort, dites-vous. Et moi, je dis plutôt qu'il est l'image de la vie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus original, mais enfin, c'est déjà intéressant. C'est pas du tout du courant. Alors, une pensée qui est une pensée sociologique, pourrait-on dire, à propos de la noblesse du temps. On se retire et cache 8 mois à la campagne pour en vivre 4 avec éclat à la cour. C'est-à-dire, ces nobles qui brillent à la cour, eh bien, pour briller à la cour, ils sont obligés de passer dans la crasse 8 mois à la campagne, dans leur château.
Et c'est très bien dit en quelques mots.
Oui, oui. Et alors, ou alors, une dernière. Nul plaisir n'a saveur pour moi, dit Montaigne, sans communication. Marque de l'estime que l'homme fait de l'homme. Donc ça, c'est l'humanisme de Pascal. L'homme ne communique avec lui-même que par l'humanité. Et c'est justement le plaisir qu'il trouve à communiquer avec ses semblables et la preuve de cette humanité. C'est une des valeurs, c'est une valeur profane, mais c'est une valeur que Pascal reconnaît. Et là, elle est exprimée d'une façon dont on n'a pas l'équivalent dans les pensées connues depuis longtemps.
Alors aujourd'hui, on est en 2005, est-ce que vous travaillez encore sur Pascal ?
Ah ben oui, je travaille encore sur Pascal, parce que je suis loin d'avoir terminé le programme. Alors il faut dire que j'ai commencé par le plus difficile, c'est-à-dire par exemple les œuvres scientifiques qui sont terminées. Alors j'ai encore les provinciales et les pensées, c'est-à-dire les plus gros textes. Pour les provinciales, je pense qu'elles paraîtront d'ici quelques mois. Là, je donnerai un texte qui est absolument nouveau, enfin très différent des anciens, simplement par la critique. Cette fois-ci, pas des manuscrits, mais des imprimés.
Des imprimés.
Des imprimés, parce que ces textes ont été imprimés une multitude de fois, et il faut savoir quels sont les textes qui sont vraiment dus à Pascal et les textes qui sont sans autorité. Or, ce n'est pas tellement facile.
Il y a une différence.
Et maintenant, ce n'est pas une question d'appréciation esthétique, c'est simplement une question d'histoire de la façon dont les textes ont été successivement publiés. C'est-à-dire, c'est une histoire de la typographie. Il faut reconstituer les étapes de la typographie. Parce que plus on s'éloigne de la première version, plus on s'éloigne de l'authentique. Car les corrections que l'on attribuait autrefois à Pascal ne sont pas de lui.
Et très rapidement, ce mariage avec Pascal, vous n'en avez pas un peu marre ? Vous ne vous êtes jamais lassé ?
Je dirais que c'est ma grande surprise, c'est que je n'en ai pas encore marre.
Merci Jean Ménard.